Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui passe de montagne en russe en montagne russe, puisqu'on vous parle de comics, de bons comics ou de mauvais comics, ça dépend des semaines. Cette semaine, et bien vous allez le découvrir en regardant en écoutant l'émission avec nous. On vous parle de Dark Ride de Joshua Williamson et de Andrei Bresson. Et Adriano Lucas. Adriano Lucas, c'est le colo ou c'est le... Oui, c'est la couleur. Voilà. Citons les coloristes, on les cite vraiment pas assez. Et ils méritent qu'on les cite parce que leur travail... En plus, pour le coup, sans spoiler, la colo est pas trop... Enfin, c'est pas le truc le plus dégueu de la... du comics. Mais avant ça, je vais dire bonjour à ma petite équipe qui va se présenter en nous donnant sa figure de l'enfer, puisque on est sur une espèce de comics qui parle d'un parc à thème autour du diable. Donc Faye, quelle est ta figure de l'enfer préférée?
Alors déjà bonsoir. Qu'est-ce que tu entends par figure de l'enfer?
Bah je sais pas. Est-ce que tu aimes les diables? Tu aimes les démons? Est-ce que t'as Belzébuth, Mephisto?
Ah bah voilà, pour faire plaisir à Asma, si jamais elle écoute, Mephisto, il est toujours présent dans nos théories. Hein. Qui sait, c'est peut-être lui qui a enlevé Kate Middleton, on ne sait pas.
Voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. Angel qui ne peut pas avoir de figure de puisque c'est un ange. Comment vas-tu, Angel?
Ça va très bien. Et toute l'équipe.
Et est-ce qu'il t'est une figure de l'enfer préférée, même si tu, bien sûr, tu n'as pas de...
Elle est trop pure.
Tu n'es que le bien, tu es pur.
Non, bah, je dirais moi-même, puisque en fonction des gens, je suis soit un ange, soit un démon.
Ah.
Toi aussi, t'as une malédiction par les gitans et tu perds ton âme de temps en temps.
Ah, j'ai compris la référence. Est-ce que vous avez la référence?
J'ai le reste.
Quelqu'un qui a sûrement perdu son âme. Je suis sûr qu'elle l'a vendue pour devenir un vampire, le vampire de la pop culture. Sophie, comment ça va, Sophie?
Ça va, et toi?
Ça va, ça va. Est-ce que tu as une figure autour de l'enfer que tu aimes particulièrement?
Alors oui, et je vais en cibler une spéciale comics, Hellboy, évidemment.
Ah bah oui, parfait, parfait, parfait.
Mais il est gentil, lui.
C'est quand même une figure de l'enfer. Mais moi, je considère que la plupart des démons sont gentils. Lilith, c'est une féministe. Lucifer, c'est quelqu'un qui... C'est un... Attends, non, c'est quelqu'un qui dénonce des vérités cachées. Non, c'est des gens bien, en fait. C'est les gens de la haut, les espèces de dictateurs, en fait. Les gens de l'enfer.
Je savais que t'étais du côté obscur, mais là, vraiment, je pensais pas que t'étais aussi loin.
Voilà. C'est marrant, pendant tout mon examen du permis de conduire, l'examinatrice, elle a parlé de Lucifer, la série Netflix. Et je pense que c'est un peu grâce à ça que j'ai eu, parce qu'elle parlait sur son truc, j'étais concentré sur ce qu'elle disait.
Ah bah t'aurais dû lui faire la pub pour l'épisode que j'ai fait sur la série.
J'aurais pu, mais je n'ai pas osé. J'étais tellement dans le stress que je n'ai pas osé. Et voilà. Et sinon, un Hellspawn de Comics Discovery, le rejeton de l'enfer, c'est Spades. Salut Spades.
C'est sympa comme accueil.
Ouais, non, mais c'est pas sympa.
Est-ce que tu as une figure de l'enfer préférée? Est-ce que tu as un cercle de l'enfer préféré?
Ouais, Damien, de la malédiction. Ah. Meilleur pub pour l'IVG jusqu'à la 9e année du fœtus.
Je n'ai pas la ref, désolé.
Bah c'est Damien là.
C'est un film d'horreur avec l'enfant
avec un gosse
qui est affreux, comme Damien Wayne, tu vois.
Adorable.
Au début, Damien, je pensais qu'il parlait de Damien Wayne, donc je me suis...
Oui, c'est la même chose, c'est pareil, hein. C'est pareil. Je pense que le prénom est un hommage, tu vois. C'est.
It's an hommage.
Il y a des chances, oui. En plus, connaissant Maurice, ça ne m'étonnerait pas.
Ouais. Oui, ce serait pas très étonnant.
En même temps, il s'appelle le démon, son grand-père.
Bah oui, pour ça.
C'est vrai, oui, bah oui.
Bah voilà, tout est lié. Allez.
Avec ce petit C.O.N.
Eh oui.
Mais adorable.
Mais oui, c'est le meilleur. Et j'ai
non,
vu,
mais vous
j'ai
voulez
vu,
vraiment avoir un gosse comme ça? Et moi, je le claque, je l'enferme vraiment dans
mon
gelou.
Moi, je veux pas
gelou,
de gosse.
Hein.
Moi, je veux voir Super Nanny, son
alors,
occupé.
Moi, personnellement,
elle va se faire défoncer,
si j'ai un gosse comme ça, je suis avec lui en train de faire des conneries, hein, personnellement. Et ce sera sans doute de ma faute s'il est comme ça, parce que je n'aurai aucune autorité avec lui.
Sophie et Damian Wayne dans Pascal le Grand Frère.
Acheter les assiettes.
Avec faudrait au moins qu'il y ait Nani avec lui, parce que sinon on va le tuer en deux secondes.
Mais Damien, c'est pas des assiettes qu'il jette, c'est des shurikens hein, ou des batarangs.
Moi, il suffit qu'il apparaisse, que tu jettes des maladroites, il risque que la pile d'assiettes tombe toute seule sur la personne.
Putain.
Donc on étire parce qu'apparemment on a vraiment pas envie de parler de Dark Ride, mais avant de parler de Dark Ride, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, on va vous parler, on va vous faire une petite reco culturelle, puisque c'est comme ça que nous débutons l'émission chaque semaine, et c'est Faye qui va commencer et qui, comme d'habitude, va parler de Taylor Swift.
C'est vrai, en plus. Non, mais j'en profite. Écoutez, jeudi sur Disney+, il y a le Eratour Taylor version. C'est fantastique. On va avoir 4 chansons en plus, acoustiques. Voilà, donc moi, j'ai trop, trop hâte. Et si vous n'avez pas vu le Eratour, mais foncez, c'est trop génial, le concert. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de le voir en IMAX. Sur la télé, ça peut peut-être rendre pas pareil, mais quand même, la mise en scène est cool, les chansons sont cool. Profitez-en pour aller découvrir Taylor, voilà, parce que moi, je l'aime d'amour. Et quand je peux en parler, je suis contente, voilà. Et sinon, j'ai une autre reco vite fait, c'est James, parce que demain, ça fait 16 ans que je suis avec lui, donc c'est Marocco. Oh, je vous le partage. Il est mimi tout plein, il est gentil, il est drôle, il est intelligent, voilà. Il faut l'aimer, ce petit James.
Mais il passe, envoyez-lui après d'amour. Taylor.
Oui, parce que quand même, il y a des priorités.
Est-ce qu'il y a James Taylor version, je ne sais pas.
Mais oui, mais en plus, je commence à l'endoctriner petit à petit, c'est très très
bien. Elle aime à force, parce qu'elle écoute des trucs sur mon Spotify quand on écoute des trucs ensemble.
Alors, c'est pas vrai. Toi. Alors, je remets la vérité. Je n'utilise pas Spotify, c'est James qui utilise Spotify. Et c'est lui qui met du Taylor Swift, soi-disant, pour me faire plaisir.
N'empêche qu'on peut se dire que, faut se faire remarquer que Taylor Swift, c'est généralement des chansons de rupture. Et votre couple tient bien la route, dis donc, à supporter les chansons de rupture en fond sonore.
Ah ouais. J'aime s'il y a un Wizbot qui dit que soi-disant, on n'était plus en ligne et maintenant on est de nouveau en ligne.
Bon, je sais pas.
Là, il y a
ce mystère.
Ouais,
le
time de la
fête.
Alors si, c'est vrai que j'avais un écran noir, monsieur.
Peut-être. Peut-être, ne sont pas.
Bah, à un moment donné, il y a eu un petit clignotement. Ton côté, James, s'est passé noir, mais c'était très très court, quoi.
Alors, attendez, je rafraîchis sur Twitch. Ça va. Mais c'est vrai que ça m'a fait. Ça a fait un écran noir. Ouais. Bon.
Pour les gens du podcast, ils vont adorer ce petit moment de.
Mais tu vas le couper, de toute façon.
Ben non, puisque je ne monte pas. Voilà, c'est bon, vous êtes retourné sur le téléphone.
Sinon, laisse un grand silence, tu verras sa piste.
Bah ouais. Non, c'est bon.
Mais tu vas couper.
Je coupe que le début. Déjà que Space m'a fait refaire toute ma... D'ailleurs, si vous plaignez du son de Comedy Discovery, à mon avis, ça doit être mieux maintenant. Parce que Space m'a fait refaire toute ma routine de montage et de nettoyage de pistes. Donc, normalement, le son est mieux. Normalement. Hein. Et s'il n'est pas mieux, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on arrangera comme il faut. Moi Marocco, je vais passer Marocco. Et ben Marocco, c'est mon équipe, parce que vraiment j'aime l'équipe de Comedy Discovery, contrairement à plusieurs personnes, puisqu'on a eu des retours un peu différents sur l'équipe. Moi je trouve que on s'améliore de mieux en mieux. Effectivement, ça a un peu changé d'ambiance depuis quelques temps, puisque et c'est pas vraiment dû à moi, puisque c'est Léna et Titou Peinture qui ont eu besoin de temps pour eux, et effectivement faire une hebdo ça fait un moment puisque c'était pendant le Covid, Titou et Léna, ça fait un moment qu'ils ont rejoint l'hebdo de l'émission, donc effectivement toutes les semaines avoir toute une soirée à se réserver, ça peut être compliqué. Comme ça fait 8 ans bientôt qu'on fait cette émission, effectivement la formule évolue, il y a d'autres personnes qui arrivent, il y a des personnes qui reviennent, voilà. Donc il faut qu'une émission évolue, elle grandit. Mais moi je suis vraiment content de cette nouvelle formule et de cette nouvelle proposition de l'émission. J'espère que qu'elle plaît à tout le monde qui écoute. Et bah, si elle ne le plaît pas, bah, y a pléthore d'autres podcasts. Allez écouter d'autres podcasts. Et voilà. C'est après, tout ce que j'avais à vous dire.
Bon, vous pouvez faire des retours, mais argumenter comme ça, ça peut nous aider à améliorer. Parce que sinon, nous, on peut rien faire. Et du coup, bah, c'est
voilà, un peu nul. Il faut donner des exemples. On est toujours prenant sur des retours.
Et merci, on a eu des commentaires positifs ça, et qu'on nous dit que ça re-rame. Et voilà, comme XP qui nous dit chaque semaine quand on a des bugs. Mais moi, je suis certain que c'est ce putain de. Moi, je sais pas si c'est ça. Hein, mais c'est en.
Tu es certain, mais t'es pas sûr. C'est con.
Non, c'est parce qu'on est en Ethernet et je pense que mon câble Ethernet il est mort. Il doit couper.
Pas
à action, des
en acheter un, ça coûte pas cher.
Voilà.
Effectivement, ben voilà, c'est ce que je pourrais.
Ça coûtera moins cher qu'un frais d'envoi parce que j'en ai plein chez moi, mais ça me coûterait plus cher de l'envoyer que de l'acheter sur.
Après, ça dépend de la taille que t'as, enfin la dimension que t'as besoin, quoi.
Ben en fait, on en a un super long, mais peut-être qu'on aurait pas besoin d'un truc ben aussi non. long.
Ben c'est ce que je te disais, oui.
Ouais.
Bon bref, on fera notre popotable.
On verra plus tard.
Après, est-ce que vous essayez de le faire en sorte qu'il soit pas en contact avec un câble électrique des fois, ça peut. Ah, quoi que ça, non, ça c'est pas censé parasiter.
Non, normalement, c'est du blindage pour éviter ça. Hein, parce que dans l'électricité, ceux qui passent les câbles dans les murs, majoritairement, t'es avec les câbles électriques, quoi.
Ouais, non, mais c'est que j'ai repéré des traces de dents,
oui.
Sûrement émises par Tigrou le vampire.
Et ben ouais, ça,
qui
c'est
a dû faire ça pendant que j'avais le dos tourné.
Donc qui mange les câbles.
La prochaine fois,
c'est pour vous dire que passer trop de temps à faire des podcasts et passer à le câliner, c'est tout. Hein. Le message est clair. Hein.
Oui, non, la prochaine fois, remplacer, mettez un fil électrique. Il se prendra une bonne châtaigne une fois et il y retournera plus.
Pucherotte.
Oh, le pauvre.
Pucherotte.
Enfin, non, je m'en fous, il m'aime pas, donc. Enfin, bref.
Non, mais il va sur.
On se retrouve dans la nuit des héros à essayer de réanimer un hamster avec une nouille. Seuls les vieux auront la référence. Donc, Angel, elle est.
Moi, oui.
Ah, bah, moi. Je l'ai pas. Moi, ce genre de truc. Voilà. Je me noie, tu vois, j'ai le parpaing au niveau des pieds, je coule.
Et ben Angel, est-ce que t'as une recommandation à nous offrir?
Oui. Bon déjà merci à XP qui avait fait passer parfait un podcast, donc c'est Red Alert, donc il parlait notamment du remastered de Tomb Raider. Parce que bon maintenant XP le sait que j'ai un problème maladif avec la saga Tomb Raider. mais ma reco de la semaine, donc c'est un gros coup de cœur en jeu vidéo, c'est le Final Fantasy VII Rebirth. Donc, il est sorti.
Ah.
Il est sorti quand? Je sais même plus. 29 février. Donc, ça fait c'est le second opus de la trilogie qui remake le Final Fantasy VII qui était sorti sur PS1. Bon, c'est une claque. Hein. Là, on est sorti de Midgar, on est dans un monde. Alors, c'est pas du monde ouvert. On est sur des grandes zones où on peut faire des choses, mais c'est pas du monde ouvert à la Zelda.
Mais là, on sort pas de Midgar.
Si, là, on est sorti de Midgar. Dans le premier, c'était Midgar. Ah. Là, on sort, on va visiter, mais on n'est pas sur un monde ouvert à la Zelda. Parce que quand ils avaient montré les bandes annonces, on pouvait supposer peut-être un monde ouvert comme Zelda, mais non, c'est des zones ouvertes. Où tu vas te balader, tu vas avoir des missions annexes, des quêtes annexes, de ce petit Chadley. Il t'en donne trop, hein, il en donne trop le gamin. Il y a beaucoup de choses, des mini-jeux, il y a des jeux de cartes, des trucs de moto, de combat, c'est vraiment garni. Et beaucoup plus long que le premier. Là, je dois être à peu près 40 heures de jeu et je suis au chapitre 9 sur 14. Le premier, j'avais dû le faire en 30 heures, peut-être 35, grand max. Donc voilà, pour ceux qui avaient kiffé le remake, bah c'est à prendre absolument. Donc si vous n'avez pas de PS5, achetez-vous une PS5 hein, pour financer.
Moi j'avais testé la démo, après je suis très très fan du premier, de l'original. Mmh. J'avais testé la démo et j'avais vraiment pas aimé la façon. J'arrivais pas à comprendre la façon. Moi, le tour par tour, j'ai trouvé ça tellement
c'est
bien.
C'est tout le temps du tour.
Non, maintenant c'est plus du tour par tour. Là, t'es sur un combat dynamique. Mais tu peux, dans ton combat, tu as trois personnes. Donc tu as Cloud et tu choisis tes deux compagnons. Et ils sont autonomes, c'est des IA, mais tu as moyen de les sélectionner pour faire des compétences particulières et tu peux aussi les interpréter dans les combats. Donc, par exemple, à un moment donné, tu sélectionnes et t'es Aerith et tu combats et tout. Donc, il n'y a plus le tour par tour, c'est beaucoup plus dynamique et j'ai envie
de... c'est sympa.
Aussi un peu plus réaliste, j'ai envie de dire.
Bah, si on peut
moi, j'avais pas réussi. Le boss, le fameux boss qu'on a au tout début, j'avais pas réussi à le passer parce que je trouvais pas. J'arrivais pas à rentrer dans le. Moi, j'aime les. Moi, je suis un fan de Atlus et des Persona, donc je suis vraiment très fan des RPG en tour par tour. Le combat dynamique, ça me j'arrivais pas à rentrer dans le truc. Mais peut-être que j'aurais continué, j'aurais capté le
bah, c'est ça, c'est, comment ça marchait. C'est un certain temps, puisque c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude que t'appuies sur une touche, ça ralentit, que tu vas choisir des compétences, des sorts, les objets, que tu peux passer d'un personnage à un autre. Donc c'est le coup à prendre, et une fois que tu l'as, ça va. Après, il y a aussi tout simple, hein, tu joues en mode facile, ça coule tout seul.
Ouais. Moi j'étais hypé par, je sais pas si vous avez regardé, mais il y a les pixel remaster du festival du Final Fantasy 1 à 6 qui sont sortis, et moi j'ai très envie de les prendre pour refaire le 6, parce que le Final Fantasy 6 c'est un souvenir. Ouais, c'est facilement, ouais, effectivement l'histoire est la meilleure en tout cas. Ouais.
La scène d'intro avec la musique, elle est belle, putain. C'est là que j'ai compris que le jeu vidéo, ça pouvait vraiment être un art, quoi. Ça a été en découvrant le 6 sur la Super NES à l'époque.
Ah, donc c'est vrai, le 7, c'était le premier 3D, hein. C'est bien ça.
Ouais, c'était en 2D, effectivement.
Moi, j'aime beaucoup le 8. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi, je l'aime beaucoup.
Ah, le 8, son mon Dieu.
Ah, j'aime beaucoup le 8.
Avec son personnage
monolithique. J'adore Squall, il a une cicatrice. Là.
Non, bah, chacun... le 7 est peut-être le plus connu...
Ah, mais j'aime le 6, 7 aussi, mais mon préfet,
je pense que c'est celui qui est peut-être arrivé plus au niveau du grand public. C'est, je pense, le plus connu. Parce qu'il y a eu.
Ouais, c'est la.
Voilà, c'est. Lui, c'est pas pour rien, mais je sais que voilà, beaucoup disent le 8, le 9, le 10 qui sont très bien. Enfin, les anciens sont mieux. Voilà, j'avais fait le 16. Le 16, tu te fais chier, mais incroyable.
De ouf.
Ah, je l'ai fini pour le finir, mais à la fin, quand il y avait les cinématiques, je regardais mon téléphone. Donc je sais même pas l'histoire en réalité. Voilà, le Clyde.
Moi, j'avais fait les vieux, parce que sur émulateur, j'avais fait justement du 1 jusqu'au 4 sur le 5, je crois pas que je l'avais fait. Mais le 4 était sympa de souvenir. Voilà, bon, bref.
On est en train de digresser encore une fois. Hein.
C'est moderne, c'est bien. Et il y a le personnage de Aerith qui est le meilleur personnage de la saga. Voilà.
Moi, j'étais fan de Sephiroth parce que j'étais un petit gamin edgy.
Il est stylé, Sephiroth.
Ouais.
Non, mais il y a toujours la team Tifa et Aerith par rapport à Cloud, parce qu'il y a un peu ce triangle amoureux.
Mais il y a vraiment des gens qui aiment Tifa? C'est possible.
Ah non, mais il y a beaucoup qui sont. Non, là, comme en plus ils sont doublés, tout ça, elle est gentille comme tout, hein, Tifa. Puis du coup, ils sont super potes, les deux. C'est même marrant, voir.
Ah.
Parce que t'as beaucoup de cinématiques, donc ça, c'est cool. Et t'as Katsid.
Je crois qu'il y a un lore autour de Tifa et l'Italie sur internet. Allez voir ça.
Tifa et Aerith, c'est quand même moins creepy que la gamine de 14 ans dans le 10 là, qui est tout le temps en maillot de bain.
Yuna, comment ça s'appelle? Yuna, ouais.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais bon,
je sais plus, mais...
les JRPG majoritairement faut voilà, il faut
au moins le 7
qu'il y aura des trucs.
Ouais, mais au moins le 7 il évitait le côté pédo, quoi. C'était surtout ça.
Space, est-ce que tu as une recommandation à nous partager?
Donc oui, j'ai lu le comics Sherlock Holmes écrit par Joe Brusha et dessiné par Juan Francisco Mota et Gabriel Yardim. Donc oui, il fallait deux personnes pour dessiner ce chef-d'œuvre. Donc comment expliquer? Ne faites pas ça chez vous, laissez les professionnels faire, ne lisez pas ce bouquin. C'est une horreur sans nom.
Ah, merde.
Voilà, comme c'est un titre Sherlock Holmes, forcément, ça parle de Cthulhu, parce que logique.
Ah.
Après, pourquoi pas?
Pourquoi pas, ouais.
Pourquoi oui, mais t'appelles pas ton titre Sherlock Holmes, où tu fais comme une étude en émeraude qui est sortie, qui a un peu le même concept. Mais là, donc, en gros, l'histoire, parce que le personnage principal d'un titre Sherlock Holmes, bah, fatalement, c'est pas Sherlock Holmes. Hein. C'est donc Spencer Holmes, qui est l'arrière-arrière-petite-fille de Sherlock Holmes. Donc, son père, qui est une version Wish de Benedict Cumberbatch, et sa mère ont été assassinés. Bah, d'abord, ça a été une faction armée qui a essayé de débuter, mais au final, c'est un des profondeurs de Innsmouth qui les ont butés. Et donc, elle, comme elle est l'héritière de Sherlock Holmes, en fait, elle a des dons de divination qui lui permettent de faire des déductions. Et elle est à la recherche d'un caillou magique. Voilà. Et bien sûr, c'est un titre Zinscope. Et le truc des titres Zinscope, c'est que l'intérêt du titre est inversement proportionnel au tour de poitrine de l'héroïne sur la cover.
Oh là là.
Et donc là, forcément, quand on voit la cover, savoir que c'était nul, c'était une déduction élémentaire. Terre, je voulais dire terre. Voilà, c'est éviter à tout prix ce titre-là, c'est une horreur sans nom.
Eh bien, merci pour cette non-recommandation. Bravo. Alors que dans le chat, XP nous parle de 16. Voilà, il en faut pour tout le monde. Hein.
Encore voilà. Un jour, ça lève sur la planète France.
Voilà, j'ai la rêve. Vous avez tous la rêve.
Et c'est qui chante un truc avec une caravane alors c'est pas
c'est Raphaël.
Raphaël.
Ah, c'est vrai que c'est un peu le même.
Ouais, ouais. Ouais,
j'y connais rien.
C'est pas la, c'est plus vieux 16. Enfin bon, bref. On va pas parler de 16. Ouais. Sophie, t'as fait ta reco ou pas
Bah non.
Bah vas-y.
Elle l'a pas fait.
Je t'en prie.
Moi.
Deux fois qu'elle est géniale. Zapper ma reco quoi.
Pardon.
Donc je ne parlerai pas d'une deux parce qu'on en fera une émission dessus. mais je vais vous recommander un petit film obscur qui peut-être ne passera jamais le cap des festivals en France, mais je pense que de toute façon ça se retrouvera en physique puisque c'est un film allemand, voilà. Donc et l'import allemand ça marche sur nos lecteurs français, voilà. Pour info. Voilà. Et du coup, le film s'appelle Bloodsucker. Il est du coup réalisé par Kaspar Joule, rien à voir avec le rappeur. Hein, voilà. C'est du coup. ah, excusez-moi, je me trompe, c'est pas allemand, c'est danois. C'est. Je fais un raccourci géographique. Et donc, bref, c'est un film de vampire. Hein, voilà, comme ça, ça coche la case. Sophie, elle aime les trucs de vampire de James. Et en fait, le concept, c'est un peu... alors, pourtant, le réalisateur n'a pas vu Under the Skin, mais je trouve qu'il y a une vibe très Under the Skin, version vampire. Et par contre, il y aura plein de refs. Si vous aimez les vampires, il y a plein de refs à plein d'œuvres vampiriques. Mais il revisite le mythe de version moderne, avec des personnages qui sont un peu punk, un peu rock... ils sont tatoués de partout, ils sont beaux comme des dieux, et ça parle de relations toxiques, comme souvent dans les histoires de vampires, voilà. Mais vraiment, alors la comédienne qui joue, du coup, la, en fait, l'histoire, c'est un mec qui se fait transformer en vampire, et sa sire, donc sa créatrice, lui demande de transformer une nana à son tour, mais genre, aucune ne lui va, quoi. Donc elle est hyper relou, etc., et c'est une relation d'emprise. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la comédienne, du coup, c'est son premier rôle, au cinéma, mmh. Et en fait c'est une modèle en fait qui sort elle-même d'une relation toxique. Qui lui a demandé justement de faire une thérapie, etc., enfin beaucoup d'efforts, et elle va faire un film d'ailleurs sur ce sujet après, et vraiment elle est mais magnétique, vraiment elle est mais tellement belle et tellement elle transmet tellement les émotions, enfin t'es complètement avec elle. Et j'avoue que je suis un peu tombée amoureuse d'elle pendant le film, et franchement non. Et pourtant, j'aimais pas les films précédents de ce réalisateur que je trouvais un peu lent, un peu qui bloquait au milieu, etc. Mais là, franchement, j'ai trouvé, j'étais accrochée du début à la fin. Et il y a un des personnages qui nous fait une petite traite à la David Bowie, voilà, pour les fans du musicien ou de Zinger, voilà. C'est que du buzzer. Et en plus, voilà, il y a vraiment une atmosphère un peu réelle, prise de vue dans la rue, etc. Full footage, voilà. Non, franchement, il met plein d'inspiration et c'est vraiment canon.
Est-ce que tu peux rappeler le titre et me dire s'il y a des vampires avec des cheveux blancs dedans ? Ça m'intéresse.
Alors, la créatrice et
on revient encore à Sephiroth.
Et blonde, comment on dit, peroxydée, mais ouais. Non, il y a pas de vampire aux cheveux blancs. Et ça s'appelle Bloodsucker, voilà.
D'accord, bah je retiens.
Casper Jules.
Eh bien, merci Sophie pour cette reco vampiresque pour changer. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces recommandations et on va passer à la petite. Paf. Tac. À la petite review de la semaine. Et donc, cette semaine, on vous parle de Dark Ride. Et c'est Faye qui vous fait la... Faye, elle a fait une reco, parce qu'elle a parlé de Taylor Swift.
Oui, et de James.
Voilà. Et de moi, effectivement.
Mais ça a peut-être coupé à ce moment-là.
Tu ne suis pas XP.
Non, mais ça a peut-être coupé à ce moment-là.
Elle s'est peut-être coupée à ce moment-là, ouais.
Oui, ah, c'est le phénomène du déjà-vu, parce que si elle parle souvent de Taylor Swift, donc il s'est dit, bah non, ça c'était la semaine dernière.
Et elle parle souvent de moi aussi, effectivement.
C'est vrai, je parle de tout ce que j'aime, voilà.
Donc je vais la refaire, puisque je me suis coupé tout seul. Donc, cette semaine, Faye, elle nous parle de Dark Ride. Donc, Obis Discovery, vas-y, Faye, je t'en prie.
Oui, bonsoir. Donc, je vais vous parler de Dark Ride, donc de Joshua Williamson et Andrei Bressan, qui sont apparemment deux personnes qui ont travaillé chez DC, d'après ce que nous dit le livre à la fin qui nous les présente. Donc, voilà, je donne les infos qu'il y a dans le comics. Apparemment, ils auraient travaillé, par exemple, sur du Batgirl ou encore du Green Lantern. Voilà, ça permet de les resituer. Et de quoi parle ce magnifique titre qui est donc Dark Ride ? Eh bien, on va voir un petit peu le quotidien d'un parc d'attractions qui s'appelle Devidland, qui est un parc d'attractions spécialisé dans l'horreur. Alors, bah, on devrait être super content, quoi. Plein d'attractions qui sont censées nous faire peur, avec des boyaux, du sang, plein de choses super bien. Mais il se passe des choses étranges dans ce parc. Il y a des gens qui disparaissent et on commence le début du livre en suivant un jeune, je sais pas quel âge il a, il est jeune, qui est engagé dans ce parc et il est fan depuis l'enfance de ce parc, il est venu avec ses parents et compagnie. Et bizarrement, ce garçon, à la suite de sa journée de travail, il lui arrive un petit souci. Voilà, un petit bizutage, rien du tout. Hein, voilà, il passe dans une espèce de maison hantée et puis bon, bah voilà, il a les tripes à l'air. Bon, ça arrive, les petites journées de boulot comme ça. Mais bizarrement, il rentre pas chez lui et il y a sa sœur qui va mener l'enquête dans ce parc et on va petit à petit découvrir les secrets qui se cachent donc dans ce parc d'attractions. Donc qui s'appelle Devil, je sais plus trop quoi.
Devilland,
merci. Alors comment vous parlez de ça ? Le titre est construit, oui, effectivement, comme une attraction, c'est-à-dire que on va avoir une introduction qui va vous faire saliver en noir et blanc, en vous disant oh là là, il se passe quelque chose de choquant, de mystérieux. Il va peut-être falloir mener des enquêtes. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Donc le lecteur se dit ah bah tiens, je vais regarder. Et puis après, on passe en couleur avec des choses qui me rappellent un peu un épisode de Scooby-Doo, mais en plus gore. Où effectivement, on va voir un peu l'envers du décor de ce parc d'attractions. Donc, on va voir que effectivement, les gens, apparemment, ils viennent dans ce parc pas pour se faire peur, mais pour faire des galipettes. Que les créateurs, notamment le fils du créateur du parc, est en stress parce que apparemment les ventes baissent, ça va pas et tout. Donc, il se dit tiens, on va peut-être croiser des dinosaures pour faire l'Indominus Rex comme dans le truc de Jurassic World, parce que vraiment le scénario, c'est un peu ça. Enfin bref, en gros, ils cherchent des nouvelles attractions. Enfin voilà, on voit l'envers du décor et en même temps, on nous met une petite intrigue un peu qui nous font penser un pacte avec le diable, avec des choses un peu bizarroïdes. Le créateur du parc me rappelle étrangement un épisode de South Park autour de Walt Disney. Donc voilà un peu pour vous donner l'ambiance. Mais malgré quelques visuels intéressants et un petit peu de trip pour les amateurs de gore, je dois dire que je n'ai pas été convaincue par ce titre-là. Les personnages sont hyper caricaturaux. Ils sont même pas du tout développés, je trouve. On n'en retient aucun. On s'attache à aucun. Y a des scènes d'horreur qui sont plates. On a une très mauvaise mise en scène de ces scènes-là. À aucun moment, on a une tension dedans. Y a même des fois où c'est limite ridicule. Je pense notamment à une scène avec un personnage qui se taillade. C'est tellement cliché que c'est ridicule. J'aimerais pouvoir sauver ce titre parce que j'adore l'horreur. J'aime bien les histoires un peu de parcs d'attractions, voilà, un peu diaboliques et tout. Il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant, mais il n'y a rien du tout qui m'attache. Je veux dire, le destin du pauvre petit gamin au début du comics qui meurt, bah tu l'oublies. La fille qui mène l'enquête, bah tu l'oublies. Les secrets des dirigeants du parc, c'est pas bien débloqué, on s'en fout. Vraiment, il y a rien à sauver, à part peut-être, tu le disais, James en off, la coloration, voilà, qui est très pop, très voilà, très coloré, avec du bleu, du rouge. C'est on a vraiment un côté un peu cauchemardesque, un peu spectacle, voilà, un peu fake, comme dans un parc d'attractions. Donc ça, c'est plutôt bien rendu, mais malheureusement, ça ne sauve pas la pauvreté du scénario. Donc je suis désolée, mais vraiment, ce Dark Ride, bah ça sera sans moi, vraiment. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais malheureusement, voilà, j'ai pas assez de matière pour vous faire une bonne analyse. Même voilà, tout le côté mercantile du parc, limite j'ai envie de vous dire, Jurassic World le fait mieux, et pourtant Jurassic World c'est pas fifou. Voilà, donc je suis vraiment désolée pour ce titre, mais je ne pourrais pas vous en dire plus et pas vous en dire des choses plus positives que ça. Voilà mon cher James, je suis désolée.
Et bah c'est pas grave, ne t'excuse pas, tu as le droit pas apprécier un titre. Ce qui fut aussi mon cas. Malheureusement, on n'a pas raison à chaque fois qu'on choisit le programme, parce que je ne lis pas les comics à l'avance. Je fais un peu, je juge à la couverture, comme on dit. J'aimerais bien avoir l'avis de Sophie, tiens, puisque l'horreur, tout ça. Je sais pas s'il est très parc d'attraction en fait, mais.
Alors moi j'aime bien le côté horrifique de Disneyland, la maison hantée, la tour de la terreur. Voilà, la tour de la terreur, c'est mon attraction préférée de tous les parcs. Voilà. Moi le côté horrifique me plaît de base, donc il y avait tout pour me plaire sur le papier, jusqu'à la police choisie, les dessins qui m'ont bien plu. Le problème,
les dessins sont pas si mal, ouais.
C'est qu'on te vend des trucs qui ne viennent jamais, quoi. C'est-à-dire qu'on te vend qu'il va y avoir, je sais pas, qu'il y a des créatures qui hantent le parc la nuit, et qui est d'ailleurs une légende urbaine de Disneyland, pour info, si vous allez sur Reddit. Il y a un Reddit, t'es complètement dédié à qu'est-ce qui se passe à Disneyland la nuit. Bon, on est sur du creepasta, mais voilà. Donc, je vois bien d'où vient leur inspiration. Seulement, je suis désolée, le Reddit sur Disneyland est beaucoup plus effrayant que ce comics. Là, on a pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'on nous vend des trucs, on nous vend le père, il serait immortel dans la cave, bizarre, etc. Sauf qu'on voit jamais le mec. On voit jamais ce qu'il fait. On voit jamais non plus ce qu'il a fait par le passé, parce qu'on a l'impression qu'il a vendu son âme au diable, mais c'est jamais vraiment montré. Moi, je me suis dit, en fait, à la fin du truc, je me suis dit, ce n'est qu'un tome 1, c'est pour ça qu'il n'y a aucune réponse. Mais non, ça a l'air d'être un one-shot. Je me dis,
Non,
c'est en 3 tomes.
Il y a 12 numéros en tout.
D'accord. Bon, peut-être que ça s'explique pour ça, et que tout va être développé par la suite. Mais le problème, c'est qu'il devrait y avoir au moins une thématique développée dans le premier, pour qu'au moins on s'accroche, parce que là, il y a plein de trucs qui sont lancés. Moi, j'ai l'impression qu'on nous lance des petites bouteilles à la mer, mais il n'y a pas de message dedans. Enfin, je sais pas, c'est pareil, il y a un mec qui disparaît, il commence à lui arriver un truc, et sa sœur qui le recherche, ce qui est un truc intéressant, tu vois. Le personnage de la meuf est assez sympa à suivre. C'est une espèce de Buffy perso moderne et des internets, quoi. Oula, mais
ça fait mal à Buffy, ça.
Ouais, mais sauf que le personnage n'est pas développé, en fait. Enfin, c'est-à-dire que elle apparaît, elle disparaît de manière random, quoi. Enfin, comme la plupart des éléments de ce truc. Le seul personnage qui reste constant, c'est le plus insupportable, c'est-à-dire le fils à papa. Et voilà, c'est le seul qu'on n'a pas envie de suivre, et c'est le seul qui est tout le temps là. Et par contre, ça m'a fait marrer parce que sa gamine, ça me rappelle la gamine d'un de mes potes qui est réalisateur de films d'horreur. Et des fois, sa gamine a des tripes, je dis, mon avis, dans le futur, il va faire des films pires que son papa.
Ah bah, ça promet.
Mais voilà, en vrai, je trouve que la gamine de ce mec-là est bien plus attachante que le mec insupportable, quoi. Bon, sa sœur, il y a une espèce de pseudo-propos contre les influenceurs, mais pas, enfin, c'est pas développé, encore une fois. Enfin, on comprend même pas ce qu'elle fait vraiment, la meuf, ni pourquoi elle a...
Elle est chaudasse.
Il y a trop de pistes ouvertes pour rien du tout, en fait.
Ouais. C'est ça, ouais.
Tu dis, James ?
J'ai pas entendu. Dire un truc aussi.
Ah, mais j'ai pas entendu ce que t'avais dit toi avant.
Moi, je disais qu'il y avait trop de pistes ouvertes, même le passé du mec qui se fait buter au tout début là.
Mmh. Ouais.
On nous tease un truc avec ses parents et on en reparle plus jamais après. Pourquoi mentionner ça d'un coup?
J'avoue que on a tendance à reprocher aux œuvres de trop en montrer, de trop en dire, de trop expliquer, mais là c'est l'inverse. Hein. Là c'est rien n'est expliqué. C'est que des pistes. Ouais, c'est ça, des jeux de pistes lancés, mais rien n'est donné, quoi. Donc il y a des dessins sympas comme là la planche qui passe là, effectivement il y a des belles images, mais voilà, sans plus. Et puis bon, des poupées effrayantes, mais on voit pas trop ce qu'elles font. Enfin, c'est pas, je trouve pas ça très flippant. Les amateurs d'horreur trouveront pas ça assez flippant, je pense.
Aucun comics n'est flippant, aucun.
Ouais, c'est compliqué de faire de la BD d'horreur.
Après chaque support peut avoir ses points faibles et ses faiblesses en horreur. Je crois que là où ça fait moins flipper, c'est en série, puisque tu sais que tu vas retrouver les personnages, et pour autant on arrive à faire des trucs. Il y a des séries géniales en horreur, donc je pense que et puis même tu prends du Hellboy, je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère, qu'il y a vraiment un truc. Enfin, je pense que le dessin justement ça te permet de créer une atmosphère et
oui, mais t'as pas peur quand tu dis du Hellboy?
En vrai, si ça peut te chatouiller une corde sensible, ça peut te faire peur, en fait. Faut juste pas faire un truc trop vague, faut aller chatouiller une veine sensible, quitte à aller creuser dans un truc de niche, en fait. Mais chacun a des corps sensibles différents et tu toucheras pas tout le monde. Enfin, moi j'ai regardé Vermine par exemple, j'ai trouvé ça très drôle, mais je comprends très bien que ça fasse peur à des gens qui ont peur des araignées. Moi j'aime les araignées, donc je fais des araignées géantes, trop bien. Mais moi je voulais être avec elle, hein. Moi je voulais pas être avec les héros. Donc voilà, ça dépend, chacun a son truc, tu vois. Alors que moi, il y a des trucs qui me font flipper, qui sont pas du tout faits pour faire flipper, parce que ça touche une corde sensible en moi, tu vois. Donc c'est la peur, c'est vraiment personnel, je pense. Et voilà, je pense qu'un truc d'horreur, il doit miser sur une ambiance, surtout quand il y a des dessins. C'est vraiment un point fort, le dessin. Et pour l'ambiance, il faut poser les trucs et le construire au fur et à mesure, et faut pas passer d'un truc à l'autre super vite, quoi. Et moi je suis
désolée,
c'est
vraiment le scénario qui pêche.
Et les Irene Creepy, ils arrivaient à faire peur à l'époque. Moi il y en a certains, quand j'étais des gamines, j'avais peur. Donc ça peut marcher. Sur un format court,
mais t'as des trucs limites sur la folie ou des trucs comme ça qui peuvent faire peur, mais
moi je me rappelle encore du truc où il y a un mec qui se fait autopsier vivant. Je me suis dit alors puis toi tes amis quoi, ceux qui font médecine. là il y a, enfin ça prend pas le temps de développer une atmosphère. Enfin le seul truc qui est sympa c'est les dessins, quoi, je trouve.
Angel, t'en as pensé quoi toi?
Moi j'ai bien aimé.
Quelqu'un qui a bien aimé.
Ouais, j'ai trouvé ça.
Et parce qu'elle est pure.
J'ai trouvé ça sympa. Ça se lit très bien. Puisque, enfin, de toute façon, Joshua Williamson, majoritairement, il fait partie de ces auteurs, je trouve que ça se lit vite et bien. Voilà, c'est un peu comme Geoff Johns, c'est pas du Hickman où tu te prends la tête.
Ça fait mal de comparer Williamson à Johns quand même. Enfin, c'est pas grave.
Non, mais pas dans. Il est pas à son niveau là, mais il a ce côté où il a des textes assez simples, assez faciles à suivre.
Oui, c'est accessible.
Voilà. Donc après, oui, il est en dessous, je le reconnais, le petit, même si si je dis pas de conneries, l'équipe sur ce comic, c'est pas celle qui faisait Birds Ride.
Si, c'est elle qui fait Birds Ride, ouais.
Que ça, c'est un. Enfin, moi, j'ai lu que le premier tome, mais voilà, c'est quand même un truc qui a bien sa fanbase. Voilà. Donc voilà, c'est pas le comics du siècle, mais clairement, moi, il a fait son taf. Surtout que j'étais pressée de le lire parce qu'il fallait que je retourne à ma drogue, donc le jeu vidéo, voilà. Et c'est passé crème. Et je pense que j'irai sur la suite, mais je vais attendre que tout sorte, parce que ça m'intrigue.
D'accord.
Je suis quand même intriguée. Cela, vous dites, par exemple, au niveau de ses parents. Moi, je le prends simplement le côté peut-être aussi pour renforcer avec sa sœur. Ah, il a perdu ses parents, donc il était qu'avec sa sœur. Tu comprends pourquoi elle débarque. Et aussi pour montrer le côté du pauvre petit qui a perdu ses parents. Enfin, faut pas
oui,
les
mais
chercher.
Il suffisait de dire ouais, j'ai perdu mes parents plutôt que de faire toute une planche où tu vois qu'il est tout seul avec. On la voit d'ailleurs dans le.
Non, mais c'est normal. Là, quand il est dans l'attraction, là, en réalité, ça l'appelle et ça joue avec les peurs. Donc, on part du principe à la base qu'il dit, à un moment donné, il dit hein, mes parents, ils sont morts. Quand il parle avec une de ses collègues, ok, bah, ses parents, ils sont morts. Et là, il montre, ça fait partie des endroits, je pense. Voilà, tes parents sont morts, du coup, on va utiliser cette image pour te les montrer, pour te faire flipper, tout simplement. C'est le texte avant qui vient justifier pour mettre un truc personnel au niveau de lui, pour lui faire peur. Donc, t'es obligé bah, d'avoir des choses sur lui, si tu ne saurais pas. Voilà. Quelqu'un qui dit, par exemple, il aurait dit « Ah, j'ai super peur des araignées. » Bah, t'aurais vu des araignées à ce moment-là. C'était simplement le petit truc.
Mais tu sais, un prépare-un payment.
Il y avait plus simple.
Hein ?
Ouais.
Hein ?
Je dis, c'est un prepare and payment.
Oui, bah, c'est ça. Donc, il y a des choses qui sont mises comme ça. De toute façon, l'histoire pour moi, parce que lui, au début, je pensais qu'il allait être le personnage principal, et à un moment donné, je me suis dit, ah, d'accord, donc lui, on s'en fout. C'est, donc, Sam, le fils. Tu comprends que, lui est différent par rapport à son père et à sa sœur, parce qu'en réalité, sa sœur, c'est bien la fille de son père. Lui, il y a autre chose, et par rapport aussi à sa mère, il y a quelque chose dessus. Donc, je me demande si, par exemple, lui, ça serait pas un peu l'anti-démon par rapport à son père ou sa sœur. Et que, voilà, lui, c'est Jésus-Christ. Et de l'autre côté, t'as Lucifer. Ça me fait penser un peu sur ça, parce que lui, il a pas le côté démoniaque comme peut l'avoir sa sœur.
Bah parce qu'ils doivent pas avoir la même mère, tout ça.
Non, je pense peut-être pas le même père. Ou alors, sa seconde femme, il y avait quelque chose de spécifique. Parce qu'à un moment donné, il y a des trucs comme ça, je crois, il faut que tu saches ce que tu es vraiment. Enfin, il y a des trucs supposés. Donc lui, je pense que c'est lui qui va combattre son père et sa sœur dans tout ça. De toute façon, quand j'ai vu la cover du dernier numéro, pour moi, c'est lui bien le personnage principal et le héros de l'histoire.
D'accord.
Après, le premier tome, c'est une mise en bouche. Hein.
Après, c'est tellement peu subtil que tu te doutes déjà de comment ça va finir.
Oui, mais comme beaucoup d'histoires, tu sais très bien des histoires comme ça que ça va finir bien. Tu t'attends pas à un truc.
Peut-être pas spécialement bien. Tu peux finir mal aussi, mais bon, tu t'attends déjà à ce qui va arriver. Par contre, effectivement, ils auraient pu faire des choses moins maladroites. Quoi. Le coup du gamin torturé. T'étais pas obligé de raconter son histoire avant, il peut très bien voir les silhouettes et se mettre à pleurer en disant papa, maman, et on comprend. Hein. Ça évite d'avoir des lourdeurs dans le récit.
Je pense pas tant que ça soit le problème d'expliquer la peur qu'il a d'être seul. Mm. C'est plutôt en fait pour renforcer le combat de sa sœur qui va venir tout faire pour essayer de retrouver son frère. Pour moi, pour rejoindre Angel. Le héros, c'est Sam Hain, donc le fils du créateur du parc, mais c'est aussi la sœur de la victime qu'on voit au début du comics. C'est à mon avis eux deux qui
sont. Oui, tu le sens venir, le truc de la relation de couple. Bah, comme elle, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, à tous les coups, ça c'est la sœur qui est venue enquêter pour la disparition de son frère, parce qu'on l'évoque un peu avant. On va dire que le truc, il y a des schémas, c'est des trucs déjà vus, donc tu vois les fils rouges. Mais ça n'empêche pas, enfin, personnellement, dans mon cas, que j'ai trouvé ça sympathique, que ça s'est lu très bien, et que voilà, j'y continuerai, j'irai à la fin.
Et j'ai halluciné où Space a défendu Darkride et Joshua Lee Williamson. Space, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, en fait, le truc, c'est que j'avais tellement envie de lire ce titre-là que je me suis trompé et que j'ai lu celui de la semaine prochaine. Donc, déjà. Pour vous dire à quel point j'avais envie de dire ça. Et en fait, j'ai lu exprès le Sherlock Holmes parce que je savais qu'il allait être nul et que ça allait me permettre de relativiser Darkride, réellement.
Ah, d'accord.
Joshua Williamson, comme a dit Angel, a plutôt très bonne presse et c'est une bonne presse que je ne comprends pas depuis des années. En fait, tout le monde encensait Nailbiter, j'ai trouvé ça bof. Tout le monde a encensé Burstride, j'ai trouvé ça bof. The Flash, ça a été la même. En fait, vraiment, Joshua Williamson, c'est un auteur, tout ce qu'il y a, pour moi, tout ce qu'il y a de plus random. C'est un yes man du comics, il fait le taf. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est pile entre les deux. Et là, avec Darkride, c'est clairement ce qu'on a. On a un truc écrit de manière médiocre, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Il installe des trucs, mais il le fait mal. Comme disait Sophie, il y a zéro tension, ce qui est quand même très con. Il y a des moments chocs pour essayer de rappeler que c'est un comics d'horreur, mais même ça, ça tombe littéralement à plat. Il y a plein de trucs qui vont pas. Ça se laisse lire, puis ça se pose et ça s'oublie, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus.
Je peux rajouter un petit point vite fait.
Vas-y,
fait, quand vous avez parlé avec Angèle de justement la scène où on voit les parents dans le train fantôme, en fait, justement, pour moi, ça montre exactement, ça illustre ton point spéd de il n'y a pas de tension. Parce qu'en fait, on te prépose l'élément qu'il a perdu ses parents et que c'est un traumatisme pour lui. Le moment où ses parents devraient apparaître, ça devrait t'amener beaucoup plus, il devrait être monté en tension, ça devrait être culminant, on devrait s'attarder sur ses émotions à lui, sauf que ça dure 2 secondes, il y a deux images là-dessus. Là, l'image de ses parents, sa réaction, et point.
Mais pareil...
Ce n'est pas de la mise en ambiance, ce n'est pas de la tension. L'horreur a besoin de place pour s'étendre. Il faut prendre le temps de montrer les choses. Si tu prends pas ce temps-là, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'empathie.
Mais pareil, tu prends l'évolution de Halloween, donc la fille cochonne du comics, entre le début et la fin, il s'est passé un truc, mais on ne l'a pas eu, nous. Parce qu'elle est passée de influenceuse qui sort des sextapes tous les 4 matins sur OnlyFans à reine des damnés sur la fin du tome, et tu ne sais pas pourquoi.
Faut la suite. Le truc, c'est que là, tu es sur une série en 12 numéros qui, en réalité, va... avoir toutes les réponses dans tout ce tome 1, c'est vraiment une
introduction. Oui, mais là le problème, on te met une évolution drastique du personnage, où vraiment il y a un gap qui a été franchi. Quand tu vois ce qu'elle fait à la fin du tome et ce qu'elle est au tout début quand tu la découvres, il y a un truc qui s'est passé, il aurait fallu le raconter, parce que là c'est juste incompréhensible.
Et oui, pareil, ils te mettent juste qu'il y a une histoire de rêve, mais
tu peux
ça peut être n'importe quoi.
Mystérieux, tu vois, tu prends la série Yellow Jacket, c'est typiquement ça. C'est une série mystère qui va pas arrêter de poser des mystères. Mais si tu ne réponds jamais aux questions avant la fin, le lecteur, il se lasse, en fait. Tu peux pas être juste. Imagine quelqu'un, il est là devant toi, il te pose plein de questions tout le temps, il te donne jamais de réponse. À un moment donné, tu fais salut, en fait, c'est chiant ton truc, je me casse, quoi. Enfin, toi, le truc, c'est
oui, mais faut la réponse tu l'auras dans les prochains tomes. Là, à la fin, je crois qu'elle le dit bien. Je suis fille de mon père, donc ça stipule bien qu'en réalité, comme lui, on ne sait pas trop. Lui, il a fait un pacte avec un démon ou un truc comme ça, et elle a rejoint. De toute façon, elle le voit souvent en secret par rapport à son frère. Donc, il y a ça. Elle allait du côté obscur avec son père.
Ouais, non, mais Angèle, il y a les. Si tu veux, quand tu fais un récit, t'as genre les grandes réponses qui doivent être données à la fin, et tu as ce que j'appelle les petites réponses. Qui sont des petits trucs qui vont être donnés, tu vois, plus rapidement. Et en fait, là, ce qui se passe par
c'est
rapport.
Une question de dosage,
attends,
en fait,
ce qui se passe par rapport au perso de Halloween, c'est une évolution et on devrait la voir arriver. On devrait voir des indices, voir des explications qui, justement, à la fin du tome, quand elle dit que je suis la fille de mon père, toi, tu dois pouvoir te dire ah ben j'ai tel indice, j'ai tel machin et tout, pour pouvoir avoir envie de revenir par la suite. Mais là, tu te dis mais il manque des bouts dans la BD. Non, enfin, il y a un truc qui va pas,
et puis son père et tout ça, t'as les conversations privées avec son père, t'as les cauchemars, et là en réalité c'est un cliffhanger, tu dis ah il y a ça et t'auras
non,
les réponses la prochaine fois. Si t'auras les réponses la prochaine fois.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Moi je suis pas d'accord.
C'est pas un cliffhanger, parce que en fait le truc, comme tu dis, oui il y a des trucs, mais c'est tout fait en off. Tu ne vois jamais l'évolution de son personnage au sein du bouquin. Elle est passée en 3 pages de salope à tueuse. Vraiment. Et tu le sais pas pourquoi. Dans le plus mauvais film d'horreur, le personnage cliché de la fille facile qui devient tueuse, tu vas voir, en fait, à un moment qui va, même en off, où elle va vriller, mais tu vas voir son comportement changer, des intentions meurtrières qui vont se mettre en place. Et ça, tu ne vois jamais. Et tu auras les réponses plus tard. Le problème, c'est que là, c'est un premier tome. Faut donner envie aux gens d'aller plus loin. Et moi, là, avec ce qu'il m'a fourni, je refuse d'aller plus loin. Là, honnêtement, ça va qu'on a eu des scans, fournis par Delcourt. Parce que payer pour ça, je me sentirais floué, franchement.
Mais en plus, tu vois, ce qui est dommage, c'est pareil, ils sous-entendent des trucs. Alors tu te dis, tiens, tu vois les cercles de l'enfer, les machins comme ça, mais c'est pas du tout exploité, c'est pas du tout utilisé. Je reviens sur l'histoire du meurtre du petit gamin au début. Justement, le fait d'utiliser le train fantôme pour ça, eh ben, ça pourrait être un peu une évolution. Par exemple, ils auraient pu lui mettre en face ses péchés, tu vois, ses histoires avec ses parents, enfin, mettre tous les trucs qui le trigger pour justement le briser. Tu vois, c'est comme quand tu as les cénobites, par exemple, qui arrivent, les cénobites, ils te torturent, ils te font revivre des trucs. Enfin, t'as quand même quelque chose, quoi. T'es une montée en tension. Ouais, et là, c'est pas du tout exploité, alors que t'as un parc d'attractions.
Non, en fait, Faye, c'est pas du tout exploité parce qu'en fait, ce gamin-là, on s'en fout. Ça a été un faux indice posé au début du récit.
Oui, c'est la grande sœur qui est intéressante. En fait.
Oui, non, mais ça, j'entends bien. Mais je veux dire, il faut au moins faire un truc effrayant. C'est on te vend un parc qui fait peur, on te vend un truc machin, et la scène qui est censée te filer l'angoisse et te dire oh putain, qu'est-ce qui se passe, je veux savoir. Au final, c'est mou. Enfin, on dirait que c'est genre, tu vois, limite, t'as quelqu'un qui va te dire bouh, t'as peur, et c'est tout. Et te balancer comme ça des trucs un peu gore. Ah, je m'explique. Des entrailles et des machins pour dire ah, regarde, t'as vu, c'est pas pour les enfants, oh là là. Alors qu'il y a rien, et ce gamin, oui, lui, je m'en fous, enfin voilà, mais je veux avoir de la peur. C'est comme quand tu fais un slasher, l'intro d'un slasher, elle est méga importante parce que c'est ça qui fait que les gens, ils vont vouloir voir la suite parce que le tueur, il en a un peu. Je prends l'exemple de l'intro de Scream. L'intro de Scream, elle est excellente. T'as une montée en tension, t'as le stress, t'as tout ce que tu veux, ça plante le profil type du tueur et ainsi de suite, et t'es dedans. Voilà, donc il faut un petit truc comme ça un peu. Là, on te vend des démons, on te vend des machins, mais il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Enfin, que ça soit pas mou du genou. L'intro du truc, on te demande l'histoire du père, là, qui apparemment, voilà, tue la mère, mais ils auraient pu s'en servir pour instaurer un pacte, un mystère, il n'y a rien.
Sa première femme. Et ça, tu vas le voir après. Oui, le truc, c'est que bah, ils disent type.
Oui, mais tu devrais pas le voir après.
Tu devrais le voir. Tu verras des indices.
C'est bien beau de préparer la fin de ton récit, mais commence déjà par écrire le début correctement. Là, le problème, c'est oui, tu le verras après. Mais c'est là qu'on aurait dû le voir. On aurait dû avoir beaucoup plus de tension, beaucoup plus d'angoisse dans ce premier tome. Là, honnêtement, c'était plat.
Je pense pas que Joshua Williamson je vais pas être méchante, mais qu'il soit capable de mettre de l'attention. Ça reste quand même pas du truc révolutionnaire, hein. Je pense qu'il faut pas en attendre. Je pense que c'est ça, vous attendez peut-être plus que
moi j'en attendais rien, hein. Joshua Williamson, j'en attends plus rien depuis 10 ans déjà de lui. Je sais qu'il va fournir le service minimum,
et je le connaissais pas, c'est juste étant amatrice d'horreur, en plus je vois les références, tu vois le petit youtubeur qui va faire des trucs, enfin je veux dire c'est un concept de film footage, hein. On l'a vu plein de fois, en fait il y a plein de trucs qu'on a vu plein de fois,
et c'est le geek de films d'horreur dans Scream aussi, quoi.
Le truc avec les créatures là, enfin qui est du parc et tout, ça rappelle justement le truc là du jeu vidéo,
oui,
là
mais ou même tous les films avec des poupées maudites ou hantées, mais
les Simpsons ont fait mieux, par exemple.
En fait, ils surfent sur plein de
même si tu renouvelles pas le genre, en fait, tu t'adresses à un public newbie qui ne connaît pas le genre, ce qui m'étonnerait parce que quand même je pense qu'avec un titre comme ça ils essaient plutôt d'alpaguer les gens qui adorent l'horreur. Même si tu essaies pas de, voilà, il faut au moins avoir un récit qui se tienne et au moins une montée en tension. Là il y a même pas les bases d'une montée en tension classique, enfin je veux dire, tu retrouves ce principe de narration dans les films d'action, dans les films de thriller, enfin ça se retrouve dans n'importe quel, enfin c'est un truc de base, quoi. Et là tout est
mais c'est ça, et pas utiliser le thème du parc d'attractions, alors qu'au début on te dit oui, on a des montagnes russes qui font que les gens se pissent dessus, qui crèvent et tout. Bah ton récit devrait être justement à l'image de ces attractions, avec un effet montagne
surtout
russe, avec ça monte super haut, tu as super peur.
Le parc on le voit à peine sur la tête du personnage, ce serait drôle.
Le comics en soi, il est pas très violent, il y a des trucs, mais c'est pas très gore. Tu peux pas dire que quand tu vois les trucs. Donc voilà, ça reste du truc très sage. Voilà, il a fait un truc très, moi j'ai envie de dire très mainstream.
Ah mais moi j'ai pas de problème avec le fait que ça soit de l'horreur sage. Tu peux faire de l'horreur sage avec vraiment de la tension. Là, vraiment, c'est juste mal écrit.
C'est que j'ai su un Lovecraft. Hein. Il y a voilà. pas seulement, il te décrit un truc gore. Hein. Pas seulement.
Là, honnêtement, c'est le mec, il s'est dit je suis à Williamson, tout ce que je fais se vend. Je vais pas me faire chier à écrire le truc correctement. Vraiment, il y a un vrai problème d'écriture.
Et après, je veux pas être méchant avec Robert Kirkman.
Exactement.
C'est le label de ses Skybound. Donc, le label de Kirkman. Et bah, ça va dans le ton de ce que fait. De ce que fait Kirkman, j'ai l'impression. Enfin, tout ce que on a lu pour l'instant qui était de Skybound, c'était dans le même
Après, dans le même état d'esprit. Je me posais la question, quel était le public cible? Est-ce que c'est des ados, par exemple?
Non, pas spécialement, je pense.
Des fans de Williamson, tout simple.
Voilà.
Ouais.
Non, mais... on est loin de... Moi, j'avais lu le début de Birthright et on est loin de Birthright.
Ouais, mais 10 ans ont passé depuis le début de Birthright et puis et le mec s'est établi une bonne réputation.
C'est dans le même style d'histoire.
Donc,
ouais, c'est sûr.
Mais son flash était bien. Moi, j'ai un bon souvenir de ça.
Après, je me demande, est-ce que c'est un truc de commande? Est-ce que c'est un truc qui lui tient à cœur? Est-ce que c'est un truc de commande?
Non, ça vient de lui. C'est une crétin d'un.
D'accord. Ouais. Ok. Bah après, il est peut-être pas à l'aise sur ce genre-là. Il est peut-être plus à l'aise sur autre chose. Hein.
Peut-être
c'est
que,
vrai,
bah, comme avait l'air de dire Angel, faut prendre ça. Mais même,
oui,
que même pour un petit popcorn, c'est mal écrit pour un titre popcorn et qu'on lit comme ça. C'est même pour un comics de toilette.
Après.
Et vous savez, chers amis auditeurs et chroniqueurs, que dans ma bouche, comics de toilette, c'est pas un gros mot. Même pour un comics de toilette, je trouve ça pas vraiment pas du tout.
Après, c'est peut-être pour des, c'est peut-être pas pour des gens qui ont l'habitude de lire des récits d'horreur.
Bah, pour moi, c'est pour des fans de super-héros et voilà.
Moi, j'ai l'impression que en fait, les moments où il y a un espèce de truc qui arrive de popper comme ça, c'était en fait, ça devait être construit sur les issues et que c'est à la fin d'une issue, il te balance un truc pour te teaser le prochain, sauf que tu as vite fait le truc dans le suivant. Et mais je pense malgré tout que même si tu fais cette formule là qui devrait marcher en comics et en issue, hein, tu devrais au moins avoir un truc qui monte en tension et une petite chose donnée à chaque numéro, quoi. Parce que je suis désolée, le prix du papier aujourd'hui fait que je pense qu'il faut encore plus accrocher les gens dès le premier issue, quoi.
Je sais pas combien il est, je crois qu'il a
15. Bah, il me semble que c'est des...
C'est pas une série que tu peux récupérer sur YouTube, quoi.
C'est des issues plus importantes, parce qu'au début, quand j'ai vu qu'il y avait 12 numéros, je me dis, bah, c'est en 2 tomes. Et c'est Léna qui m'a dit, bah non, c'est en 3.
Ouais, je crois que c'est 40, ouais. Il y a 40 pages,
voilà,
il me semble.
Parce qu'en gros, t'as 4 numéros dans le tome. Donc c'est des
numéros
plus importants.
Non, mais même sans le... Même sans le rapport pris par page... Moi, honnêtement, j'ai senti plus de tension sur le fait que le parc aille mal financièrement dans les 4 issues qu'on a lues là.
Oui, c'est vrai, oui.
Que sur l'histoire d'horreur qu'il veut dégager, quoi. C'est vraiment. Ouais, non, c'est juste mal écrit. Il y a rien de plus à dire, quoi. Après, peut-être qu'en intégral, ça sera agréable à lire. Là, en épisodique, ça a zéro intérêt.
Je suis en train de chercher le prix. Je trouve pas là. Ah, si, il est là. C'est bon, j'ai trouvé.
T'as trouvé?
Alors, il est à. Je vais vous dire ça. À 15, enfin, 16 euros.
Ça fait 128
pages. Ouais. Honnêtement, je veux pas être médisant avec Delcourt. Hein, mais je mettrai pas 6 euros là-dedans. Personnellement.
Ouais, c'est du 40 pages, les issues. Je viens de vérifier.
Est-ce qu'on se poserait pas la question rituelle de l'émission ?
C'est même pas la peine. Hein,
non,
parce qu'on a
là,
fait
c'est
un
bon.
Oh là, c'est bon.
Bah, tout le monde... Mais juste pour le plaisir de... On est sur un truc gore, donc on montre...
Il y a beaucoup plus d'horreur et d'émotion et de tétanie dans ce cœur misé par ce micro de tordu que dans ce comics. Pardon.
Et il fait peur à XP, ce cœur.
Ouais.
C'est ça qui a fait
pour le plaisir de... De faire dire Berk à XP. Angel, bon, est-ce que t'as aimé au point d'en mettre un coup de cœur ou c'est,
Normalement non, mais rien que pour l'esprit de contradiction, je vais lui mettre un coup de cœur.
Ah, ça
bah, en tout cas, tu vois, j'ai préféré à Dame Vem Hall.
Ah, vous préférez Dame Vem Hall.
Ah, j'ai préféré ça.
C'est quoi déjà, Dame
truc de...
C'était le Hellblazer sans John Constantine.
Ah oui, bah tu vois, j'avais déjà oublié, donc oui.
Ah non, je préfère Dame Vem Hall, de loin. C'est plus joli déjà. Je veux pas être méchant avec...
Oui, bah à Après, les scans qu'on avait, ils n'étaient pas très jolis. Hein. Je pense que la compression a fait que l'image était un peu dégueulasse.
Ah oui, peut-être.
Oh ouais, là, l'image était
peut-être
dégueulasse.
C'est moi qui ai compressé.
Bon, les textes, ils étaient super lisibles. Ça, c'était cool. Parce que des fois, c'est pas ouf.
Moi, je les ai eu en... Parce que je pense que j'ai les épreuves directement qui m'envoient. Avec les fichiers qui font plus de 5 gigas. Donc ouais, c'était bien. Enfin, non, en plus, je le sens être mis en vécu. On l'a reçu... on l'a reçu en physique, donc on l'a lu en physique. Voilà. Et
bon, sinon tu mets un coup de cœur, James.
Et je mets pas de coup de cœur du tout. Je suis désolé. Je suis désolé pour les gens de Delcor parce que c'est les meilleurs, c'est les plus gentils. Mmh. Mais malheureusement.
Mais après, on peut rien enlever. Tu vois leur boulot, le truc il est net. Il y a les bonus sont intéressants. T'as plein de trucs assez généreux, c'est bien fait. L'album en lui-même est joli. C'est juste le.
Pour le coup, après, si vous voulez aller, comment il s'appelle, Spades avait l'air de dire l'inverse. Moi, j'ai lu que le premier, donc je sais pas si les 10 tomes sont bien. Mais Birthright, j'avais lu le début et c'était sympathique, donc ça.
Ah, c'est comme ça, moi je trouvais sympathique comme ça.
C'est mieux que Darkride, en tout cas. Darkride, c'est un mec qui se fait. C'est une espèce d'isekai du. Mais il y a 10 ans. Donc c'est un petit gamin qui se.
James précise isekai parce qu'il y a
isekai,
des gens
oui,
qui.
Isekai, oui, c'est un. Je précise, je vais donner le pitch. C'est un enfant qui se fait téléporter dans un monde de fantasy et qui revient, je crois que c'est 20 ans ou 10 dans ces 10 ans. Ou...
Ouais, une dizaine
entre 10 et 20 ans après.
Ouais, entre 10 et 20 ans, qui revient dans notre monde alors qu'il est devenu une espèce de Conan le barbare. Du coup, sont le monde de fantasy et le monde normal vont un peu s'entrechoquer. Et voilà, c'était assez rigolo avec un peu de mystère. Donc ouais, bah si vous voulez lire du... En plus, c'est sorti chez Delcourt, c'est disponible en 10 tomes, vous pouvez y aller.
Ah ben, Birthright, comme je dis, hein, c'est vraiment un auteur que je trouve random, Williamson. Mais Birthright m'a donné plus envie de lire la suite que ce tome-là, de lire Darkride, quoi.
Donc ce que je disais, en fait. Ouais.
Après, Angel a raison, ça se lit vite, par contre.
Oui, ça se lit vite.
Demi-heure, une heure, et c'était lu.
Et les dessins sont sympas, quand même.
Ouais, non, André Bressan, faut reconnaître qu'il est doué, hein, avec son crayon.
Après, je trouve ça colle pas trop à l'ambiance qu'il voudrait faire. Tu vois, les couleurs sont peut-être trop vives pour vraiment faire le truc aurore, ambiance, horreur. Sauf la partie noir et blanc. Je trouve que la partie noir et blanc, elle est top.
Et en plus, il est gentil parce qu'il a partagé l'émission sur Instagram. Donc, ça me fait plaisir. Bon, ben voilà. Désolé, on vous recommande pas Darkride.
Moi, je vous le recommande.
Mais on vous recommande d'aller vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, de nous laisser des gentils commentaires sur iTunes, sur YouTube, tout ça. Merci à ceux qui le font. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre site internet, jamesfay.fr. Vous pouvez retrouver toutes nos autres émissions Geek en série. Il y a des épisodes qui sont en train de, qui vont bientôt arriver. We Have to Go Back, notre émission sur Lost. On commente chaque épisode un par un.
On analyse.
Oui.
On analyse chaque épisode.
On analyse, oui. Oui, effectivement. Si vous avez aimé Ultimate Invasion et que, parce que je reparle de l'émission qu'on a fait la semaine dernière. Si vous avez aimé Ultimate Invasion et que vous avez envie de vous faire un petit avis sur Ultimate X-Men, eh ben, il y a Spades qui a fait une petite vidéo, pour donner son avis sur Ultimate X-Men. Spoiler, ce n'est pas très positif.
Non, c'est pas totalement négatif.
Laisse les gens aller voir. Laisse les gens se faire leur...
Le truc marrant, c'est que Peach Momoko a justement répondu à une des critiques que j'ai fait dans ma vidéo. Je partais pour lire du X-Men et j'étais relativement déçu de ce qu'elle proposait. Sa réponse, je la trouve très cohérente. Ou en gros, pour elle, les X-Men, c'est surtout des jeunes qui se retrouvent avec des pouvoirs et qui savent pas trop quoi en faire. Là-dessus, je lui donne totalement raison.
D'accord. Mais en tout cas, allez voir la vidéo de Spade sur son Instagram. Est-ce que tu l'as mis sur TikTok?
Elle est sur TikTok et sur Insta et je vais certainement faire d'autres au fur et à mesure comme ça. J'ai hésité à faire le Sherlock Holmes, mais non, ça mérite pas.
Et eh bien, allez vous abonner sur son. Vous retrouvez le Linktree, hein, Linktree sous la description. Vous retrouvez les Linktree de tous les chroniqueurs, sauf Angèle, puisque Angèle n'a pas de, t'as pas d'Instagram.
Non,
pas de...
moi je vis dans l'incognito total.
Et d'accord, et tu as bien raison. Tu as bien raison. Et puis vous retrouvez bien sûr le site de Sophie, tout ce qu'elle fait dans la description aussi.
Angel ne veut pas, ne veut pas que l'on découvre qu'elle est la fille cachée de Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est une
vanne.
Pourquoi?
Bon bah,
moi j'ai cru que t'allais dire que c'était la sœur de Damian Wayne, c'est pour ça qu'elle l'aime pas.
Ah, je préfère être la sœur de Damian Wayne que.
Au moins t'es friqué comme ça.
Ouais, non, je veux dire à ma mère qui est un peu, qui est le chef de la famille, hein, donc je pense qu'elle va se mettre en mode Chewbacca.
Ah.
D'accord. Elle est petite, mais faut pas l'emmerder.
Par contre, si elle envoie des balles avec le nom inscrit dessus, moi je trouve ça cool. Je valide l'idée.
Bah sur ce, on va vous laisser, on va passer à l'émission news. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle de Love Everlasting. Toujours, non, pas toujours chez Delcourt, chez c'est chez Urban
Comics.
C'est
Tom King.
Voilà, c'est Tom King.
Bah oui, c'est Tom King. Et Elsa.
Ah putain.
Ah, bah cool.
Et Elsa Chartier.
Chartier, c'est ça.
Ah bah cool.
Oui, c'est Elsa Chartier. Ouais. Ouais. Effectivement. Donc voilà, on vous dit à la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés.